sur Radio Prévert. Il est 11h02. Merci de nous accompagner tout au long de cette matinée. Nous sommes en direct depuis le cinéma municipal Le Kid à la Flèche, où a lieu quelque chose de très important. Il s'agit d'une rencontre autour du premier budget participatif. Les 11 projets retenus sont présentés au public. Donc vous pouvez venir voir ce qui s'y passe ici. C'est une ambiance très détendue, très conviviale, avec des porteurs de projets qui sont là, qui expliquent au public la genèse de leur idée, comment ça peut se matérialiser. Et puis, on m'a dit aussi que vous pouvez gagner quelque chose si vous venez voter aujourd'hui en direct. Et Madame la maire de La Flèche va peut-être confirmer. Bonjour Nadine Grelet-Certenay.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de vous exprimer pendant cette émission en direct pour cette grande première aussi. C'était un engagement de campagne, je m'en souviens. Et ça y est, promesse tenue.
Oui, bien sûr, c'était quelque chose qu'on avait affiché, qu'on avait fait connaître. La démocratie participative était un enjeu important pour nous. On a des décisions en tant qu'équipe municipale à prendre tous les jours, mais justement si pour certaines décisions, notamment en termes de projets, on peut intéresser nos habitants, nos concitoyens, nos administrés, eh bien ce serait un pari gagné. Donc nous avons mis en place cette fameuse ligne budgétaire, budget participatif. Et donc à ce titre-là, se sont effectivement pointés nombre de porteurs de projets et donc toute une équipe s'est constituée pour pouvoir analyser les projets en fonction de critères qui avaient été indiqués auparavant, qui ont été retenus. Il y a une grille, bien sûr, qui vient filtrer un petit peu les nombreux projets qui se sont présentés à nous, puisque je crois que c'était 53 projets au départ. Donc, en fonction des critères, 11 ont été retenus, vous l'avez dit. Et donc, ce matin, on a une belle petite affluence. Donc, c'est quelque chose qu'on veut poursuivre. Si on peut contribuer à créer ce lien et à intéresser nos concitoyens sur ce qui se passe dans leur ville et sur ce qu'ils souhaitent pour leur ville, ce sera vraiment quelque chose d'atteint qui sera très significatif et c'est avec tout le plaisir qu'on voulait le mettre en place.
Et là, les projets qui ont été retenus, les 11, eh bien, ça va de différents domaines. On parle de foot golf, de jardins partagés, de fontaines à eau, ça va dans tous les sens.
Oui. C'est cette variété et cette diversité de propositions qui est intéressante justement. Et je remercie d'ores et déjà les porteurs de projets d'y avoir contribué. Et j'espère que cette première édition pourra rebondir et peut-être faire écho sur encore plus de projets. Donc il s'agit à la fois de projets pour des quartiers, à la fois de projets pour des publics, à la fois des projets d'embellissement environnementaux, etc. Donc ce sont vraiment, c'est cette diversité qui est intéressante. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc c'est d'où l'embarras du choix d'ailleurs. Moi la première, mais c'est intéressant et je j'invite tous les Fléchois à venir regarder. C'est très vite fait, hein. On leur demande pas d'être ici une heure. Il y a une présentation de chaque projet qui peut être assez synthétique et puis après il y a le petit bulletin qui va dans l'urne et c'est gagné.
Et on gagne justement quelque chose, voilà.
Voilà.
On dit pas quoi, mais
c'est la surprise.
C'est la surprise. Et qu'est-ce que ça dit aussi cet engouement, puisque sur Internet il y a des gens qui ont voté déjà pour pas voter. Ils ont proposé leurs idées et il y avait au départ plus d'une cinquantaine de projets et ces projets qui n'ont pas été retenus, c'est parce que ça faisait peut-être doublon avec des initiatives
alors,
déjà prises par la collectivité.
Alors déjà, effectivement, alors certains projets qui il fallait être fléchois, bien sûr. Il faut que ce soit dans la ligne budgétaire qui a été retenue. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui existe déjà. Et ça a été le cas pour certains. Hein. Monsieur Tangremont vous donnera plus de détails à ce niveau-là. Et puis, il faut que ce soit du collectif. C'est vraiment de l'ordre de l'intérêt général. C'est-à-dire que si on veut modifier quelque chose dans son propre domaine ou dont le bénéfice n'est que particulier, bien évidemment, ce ne sera pas pris en compte.
Il faut que l'intérêt général.
C'est le premier enjeu, tout à fait. Faire du collectif.
Et ce qui fait sens aujourd'hui également, c'est qu'on parle beaucoup de la faculté que les gens ont à donner leur avis avec ce qu'il y a comme outil aujourd'hui, les téléphones portables, la démocratisation d'Internet, ce n'est plus quelque chose qui appartient à certains privilégiés. Donc vous les incitez aussi à s'emparer de ces outils-là lorsqu'on propose ce genre d'initiative, que ça fait sens aussi de s'y associer.
Oui, oui, on a forcément tout public pour pouvoir voter. Hein. C'est au plus de 15 ans, donc ça veut dire qu'on a plusieurs générations là qui sont supposées être concernées. Donc il faut aussi s'emparer chacun à son niveau de tous les supports qui peuvent exister, en passant par le crayon et le papier jusqu'au support numérique, bien sûr. C'est aussi leur montrer que si on veut véritablement participer, on en a les moyens.
Vous tenez le bureau de vote physique aujourd'hui,
oui,
avec Karine Ménage,
oui,
adjointe à la culture. C'est les prémices aussi d'un éveil à la citoyenneté, puisque je vois des familles qui viennent avec des enfants en bas âge.
Ouais,
ça a aussi cette vertu-là.
Alors c'est le côté très sympathique, effectivement, de cette organisation, c'est que les personnes nous demandent des précisions et puis des fois débordent totalement du sujet, viennent nous solliciter sur d'autres sujets, mais c'est toujours très intéressant. C'est un lieu de rencontre, finalement. Et donc, c'est aussi cette convivialité qui fait que c'est très agréable.
Créer du lien social à travers cette initiative.
Tout à fait, tout à fait. Avec celle-ci, bon, on a nombre de projets encore pour pouvoir retrouver. À l'issue, faut l'admettre, à l'issue d'une période quand même très sombre, même si on rentre dans une autre période un petit peu compliquée également et difficile, mais c'est d'un autre ordre, mais il faut admettre que depuis 2 ans, on n'avait plus cette possibilité d'être spontanément
ensemble,
en contact,
ouais,
avec il n'y avait plus de manifestations, il fallait se parler derrière un masque, encore, il fallait peut-être même pas se voir du tout. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour l'équipe municipale de démarrer dans ce contexte, et c'est avec un grand regret, effectivement, qu'on n'avait plus cette possibilité d'être sur le terrain, puisque c'est ça, en tant qu'élu, que l'on aime et que l'on veut continuer à faire. Donc, c'est avec un grand bonheur que je vois que cette période s'éteint petit à petit, qu'on va pouvoir rentrer dans quelque chose de beaucoup plus festif, spontané et convivial. Et j'espère qu'on va pouvoir réparer ces deux années, la dernière, qui ont été effectivement beaucoup moins constructives. Enfin, dans le rapport à l'autre.
C'est vrai ce que vous dites là, puisque on en vient même à ne plus se rendre compte que on est entré dans une autre phase, puisque on s'était habitué, au masque, à toute cette atmosphère autour de la pandémie.
Le contrôle, le pass, la distance, la distanciation sociale. Enfin, on était vraiment rentré dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et donc, énormément de personnes nous ont témoigné du fait que c'était quelque chose de très compliqué, très difficile à vivre, même avec les proches, bien sûr. Mais il n'y avait plus cette socialisation, cette société, au sens où, effectivement, on a affaire ensemble. Et si on peut retrouver tous ces contacts, toutes ces initiatives, toutes ces envies justement de faire ensemble et de recréer du lien, tant mieux. Pour venir réparer un petit peu des choses qui ont fait du dégât quand même. La santé mentale a été très très impactée à tous les âges, hein, que ce soit nos jeunes. Nos jeunes ont beaucoup souffert, mais aussi nos personnes âgées, nos familles. Ça a été très compliqué.
Alors Nadine Grelet-Certenay, Madame la maire de La Flèche, vous évoquiez donc cette sortie de la crise sanitaire. Il y a aussi une autre actualité qui vient percuter le quotidien depuis quelques jours. À La Flèche, je sais qu'il y a eu un rassemblement qui a été organisé avec une participation des habitants de la commune, des élus, des responsables associatifs, entre autres. Qu'est-ce que vous dites aux habitants de La Flèche, du secteur, par rapport à cette actualité-là, vu qu'il y avait déjà un contexte de crise avec la pandémie, avec des conséquences, on ne va pas en revenir, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure. Qu'est-ce que vous leur dites déjà qu'il faut intégrer le fait aussi d'être entré dans ce conflit géopolitique-là et que forcément, il ne faut pas s'en détacher, parce que là, si je vous pose la question, c'est parce que un des porteurs de projet a spontanément évoqué la situation en disant bah, oui.
Ça nous engage forcément, ça nous engage forcément, et on est obligé d'avoir une position là-dessus, bien sûr. On sait bien, alors non seulement que c'est l'initiative d'une seule et même personne, hein, c'est ce que je disais l'autre jour, on a un responsable et on a vraiment un agresseur et un agressé qui est le pays d'Ukraine et, tous, et les Ukrainiens, mais ça fait c'est à nos frontières. Donc c'est d'une part un peuple qui est envahi de façon totalement incompréhensible et d'une manière totalement despotique, hein, puisque c'est un pays qui a son autonomie, qui veut son indépendance, et c'est aux portes de l'Europe. Et donc, effectivement, Vladimir Poutine, la Russie, envahit et récupère toute cette partie ukrainienne, c'est à côté de la Finlande, c'est à côté de tous nos pays, l'Allemagne, etc., enfin de nos pays frontaliers. Et c'est potentiellement toute l'Europe qui est remise en cause aussi dans son être, dans son identité. Donc, c'est vraiment, de toute manière... quand on parle de guerre, c'est quelque chose qu'on pensait ne plus voir exister. Qu'il y ait des conflits, des désaccords, mais justement les pays depuis les dernières guerres notamment ont essayé de tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise plus jamais, et à chaque fois on le voit bien, c'est quelque chose qui émane des bilans et des discours de nos dirigeants et de la population, plus jamais ça. Et pour autant on voit qu'un individu peut redéclencher, j'ose dire le mot, une guerre mondiale, puisque c'est de cet ordre. Donc c'est très grave, c'est humainement parlant insoutenable, et j'admire vraiment la population et son dirigeant de garder ses valeurs d'indépendance, de garder ses valeurs de solidarité et de soutien. Donc je reviens à la flèche. On a bien sûr très rapidement pris contact avec en ce qui me concerne notamment aussi, avec la préfecture, avec l'État, avec l'association des maires de la France et de la Sarthe, avec les associations locales que sont le Secours Populaire, la Croix-Rouge et les autres bien sûr. Et donc nous avons essayé d'organiser. Au-delà de l'appel à soutien, nous avons essayé d'organiser cette collecte de dons, puisque nous étions très vite sollicités par les Fléchois. Donc, des dons de toute nature, que ce soit des dons financiers, que ce soit des dons en nature. Et donc, on a, vous l'avez vu, une entreprise Effilog qui a été très, très touchée, très émue par la problématique des Ukrainiens, et qui s'est portée tout de suite candidat à transporter les dons en nature. Donc, la liste, on l'a distribuée et on l'a bien évidemment sur le site de La Flèche, pour ceux qui sont intéressés. Ce ne sont pas prioritairement des vêtements dont il est besoin, mais tous les autres dons, alors médicaux bien sûr, hein, tous les produits médicaux, mais aussi les couvertures, les produits pour bébés, des jouets, on nous a dit qu'il fallait des jouets pour les petits, tout ce qui est alimentaire, mais qui se garde, hein, des produits secs notamment. Et donc la liste, on l'a sur le site de La Flèche. Le Secours Populaire et la Croix-Rouge ainsi que la préfecture nous ont donné des liens pour les dons financiers, et puis nous allons poursuivre. Alors on a aussi les demandes d'hébergement, et on a des Fléchois qui nous ont d'ores et déjà fait des propositions d'hébergement de famille. Alors là, on recense ces personnes-là qui s'adressent directement à la mairie, via le site internet ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être aussi par mail, en nous donnant tous les coordonnées, leurs coordonnées, le lieu, le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir, les conditions, etc. Et bon, j'allais dire, il fallait organiser les choses avant de vraiment pouvoir le présenter de façon précise à la population fléchoise et au-delà, puisque ce sont aussi des personnes qui sont bien au-delà de la Flèche. Tout le pays fléchois, bien sûr, s'en est emparé. J'ai fait appel aux maires de la communauté de communes, qui, eux, de leur côté, organisent éventuellement des collectes aussi dans leur mairie. Donc j'appelle les citoyens à aller se renseigner auprès de leur propre mairie, bien sûr. En termes d'hébergement, les Ukrainiens ne sont pas encore chez nous, bien sûr, ils sont encore à la frontière, mais ça pourrait arriver très vite. Donc on fait remonter ces coordonnées à la préfecture qui après organise. Nous aurons une logistique derrière, nous nous ferons aider des associations pour tout ce qui sera purement alimentaire, les besoins. S'il y a besoin de meubler certains lieux, on fera appel aussi à Monde Solitaire, aux associations, pour s'il faut un lit, un meuble, même la population est prête à donner au cas par cas. Donc petit à petit, les choses vont se concrétiser, vont se mettre en place, et je remercie d'ores et déjà ceux qui nous ont fait des retours de disponibilité de chambres, de lieux, de cuisine, enfin d'hébergement, même autonome pour certains, c'est très, très important. Il y a une belle solidarité qui s'est engagée, beaucoup d'émotions autour de ce conflit, particulièrement grave, on le sait, et puis on le voit bien, de toute manière, tous les jours à la télé, ce sont des images affreuses de personnes qui décèdent, de familles, de petits, de personnes âgées qui ne peuvent pas bouger, qui sont complètement cloîtrées chez elles, avec une terreur incroyable. Donc c'est avec beaucoup, quelquefois, ce sentiment des fois d'être un peu impuissant à pouvoir faire des choses. Mais donc la France, l'Europe s'en est emparée. Et puis nous, à notre niveau, citoyens, nous allons en tout cas mettre en place les conditions pour que ces personnes puissent venir chez nous.
Justement, dans les perspectives, cette fois-ci, Nadine Brelet-Sertonnet, c'est à l'ancienne sénatrice que je parle. Dans ce contexte perturbé, chaotique, est-ce qu'il est important aussi de garder des canaux avec vos réseaux politiques, avec vos partenaires, que ce soit en Russie ou en Ukraine ? Faut insister là-dessus que ce n'est pas les armes qui auront le dernier mot.
Bien sûr, c'est cette solidarité qui fait qu'on garde cette dignité aussi, dignité des peuples. Et puis, il faut garder la relation avec les pays, avec les réseaux, de façon à toujours laisser passer des messages, garder des liens, de façon à mieux se comprendre et mieux s'entendre les uns les autres, parce que quelquefois, il y a des murs qui se mettent en place. Non seulement on ne sait plus ce qui se passe derrière, mais on ne comprend pas. Et je pense notamment à la liberté de la presse. C'est quelque chose dont les parlementaires se sont énormément engagés, en tout cas je connais bien moi le groupe avec lequel j'ai travaillé là-dessus. La liberté de la presse, alors c'est au-delà de toutes les sensibilités actuellement, mais je me souviens qu'avec les collègues qui travaillaient sur cette commission les collègues socialistes se sont énormément engagés sur la liberté de la presse, qui est éminemment essentielle. On le voit encore plus aujourd'hui, pour laisser passer l'information, qu'il n'y ait pas cette désinformation, cette rupture qui fait qu'on voit bien qu'il y a une manipulation de la part de Poutine sur l'information. J'ai l'impression de retrouver ce qui avait été fait dans les décennies passées entre Staline, entre Poutine, etc., où il y a, et tous les conflits armés qu'il y a eu, où l'information, on la déformait tellement qu'on contribuait aussi à cette haine. Et il n'y a que la presse et ces réseaux et ces réseaux d'information qui sont essentiels à rétablir la vérité.
Comme quoi l'éducation aux médias est important, et nous allons y prendre notre part aussi. Je crois que vous allez souscrire aussi à ces différentes initiatives qui sont promues par des associations, des journalistes, des élus également, pour que non seulement les jeunes, les scolaires, mais le grand public aussi soit au fait de la capacité à se forger une opinion en tant que citoyen, et puis s'informer grâce à ces sources.
Oui, c'est ça. Et avoir plein de sources d'informations, on le redit jamais assez. Les réseaux sociaux ne sont pas suffisants, bien sûr. Il faut aussi aller se documenter, parce que les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux, hélas, sont aussi très déformants. Ce ne sont pas des réseaux qui sont faits à l'origine pour s'épandre en haine et en agressivité, mais plutôt pour s'informer théoriquement. Donc, quand, hélas, on le remarque tous, que ce sont des expressions hyper haineuses qui se mettent en place, eh bien, il faut aussi aller chercher ailleurs l'information, et il y a nombre de sources.
des initiatives donc à mener, il y a des initiatives à mettre en place, on ne l'a jamais assez répété, et dont les prémices se font voir là devant nos yeux, sous nos yeux, ici au cinéma Le Kid à La Flèche.
Rendre citoyen, ça commence par là.
C'est ça. Donc venez voir ce qui se passe ici, il y a des porteurs de projets qui sont présents à nous proposer ces différentes initiatives pour lesquelles vous devriez voter. Donc on le rappelle, vous venez voter aujourd'hui en physique et il y a un cadeau qui vous sera offert par la mairie de La Flèche. C'est la mairie qui offre ?
Oui. Okay, et donc j'invite toutes les personnes fléchoises, les quartiers qui cette année ne se sont pas fait entendre à pouvoir le faire l'année prochaine ou l'année suivante. Allez, rassemblez-vous et proposez des choses pour votre quartier, pour la ville, pour une partie de la population. Pourvu que ce soit collectif et pourvu que ce soit de l'ordre de l'intérêt général, on est à votre écoute.
Cette grande première, c'est Radio Prévert qui vous propose de la vivre ici même en direct. Merci beaucoup Nadine Grelet-Certenay.
Donc, avec plaisir.
La suite, ce sera le vote au conseil municipal, Une fois que les fléchois se seront exprimés.
Pour
entériner les choses et puis la réalisation de ces projets qui seront...
Alors dans l'année, normalement, l'année 2022, alors ça dépendra des projets bien sûr, parce qu'après c'est... Alors il y a déjà eu un filtre sur la faisabilité technique et budgétaire. Donc normalement, alors selon les projets, pour certains ça pourrait être fait relativement vite, à partir du moment où on a les matériaux, parce qu'il y a aussi, on le sait, tout de même cette grosse inconnue aujourd'hui sur certains matériaux, mais ça devrait aller assez vite après, une fois que ça va être voté.
Merci infiniment d'être venu nous parler sur Radio Prévert de ce premier budget participatif dont la concrétisation est là devant nous avec ces différents projets donc proposés par des fléchois. Et puis merci d'avoir évoqué aussi l'actualité internationale. Nadine Grelet-Certenay, merci.
Merci.
À bientôt sur Radio Prévert.
À très bientôt.